l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Dan Serfati, le coprésident du Kerayan Assad France. À propos de la campagne IFI 2023, l'impôt sur la fortune immobilière qui court en ce moment. Dan Serfati, bonjour.
Bonjour.
Alors une approche, je l'entends, un peu abrupte, tant qu'on n'a pas expliqué l'émission du Kerayan Assad. Et pour commencer, j'aimerais que vous nous fassiez un petit point rapide sur l'historique de cette vieille dame née en 1920 à Londres.
Absolument, absolument. C'est une longue et vieille histoire, le Kerayan Assad, et l'histoire en tout cas du Kerayan Assad avec Israël, puisque comme vous le disiez si bien, créé en 1920, donc avant la création de l'État d'Israël, et le Kerayan Assad a en réalité joué le rôle de bras financier du gouvernement israélien jusqu'à la création de l'État. Donc c'était le lien entre Israël et la diaspora avec les levées de fonds pour pouvoir financer des entreprises qu'on connaît tous d'ailleurs aujourd'hui comme El Al. Par exemple, a été financé grâce au Kerayan Assad, la création d'El Al, les routes en Israël, etc., etc. Le KKL s'occupait, lui, de tout ce qui était agriculture et le Kerayan Assad de tous les financements. Et aujourd'hui, le Kerayan Assad est encore là, toujours, j'allais dire, fidèle à sa mission d'origine. D'abord, le lien entre Israël et la diaspora, ça n'a pas changé. En particulier, et c'est le deuxième sujet, la Alia. Donc c'est le Kerayan Assad qui finance les opérations de l'agent juif pour aider, favoriser la Alia, et on va en parler tout à l'heure, que ce soit de la Alia volontaire ou de la Alia forcée, comme l'Ukraine,
oui,
en ce moment. Et troisièmement, le Kerayan Assad finance tout ce qui peut servir à renforcer les structures de la société israélienne, en particulier les jeunes en difficulté, les personnes âgées, tout ce qui tourne autour de la fracture sociale, de la réduction de la fracture sociale en Israël.
Aujourd'hui, voilà, une direction beaucoup plus sociale que à l'origine,
absolument,
où c'était plus institutionnel, effectivement, avec la création des infrastructures et des institutions israéliennes.
Absolument, absolument. Même si le Kerayan Assad a gardé cette spécificité, puisque c'est la seule association caritative qui est inscrite dans la loi israélienne. C'est-à-dire qu'il y a une loi Kerayan Assad qui a institué la création de l'association Kerayan Assad liée à cette histoire. Et donc le lien aujourd'hui, bien entendu, entre le Kerayan Assad et l'agent juive et les différents organismes comme l'Organisation sioniste mondiale reste extrêmement fort compte tenu de ce côté institutionnel que vous évoquiez tout à l'heure.
Vous êtes aussi le curseur, quelque part, de la force de la diaspora israélienne, de la population juive dans le monde. Ça, vous le sentez, vous, ces énergies qui vont vers... Alors, évidemment, ça passe souvent par l'argent, mais c'est cette énergie positive qui va vers Israël.
Absolument, absolument. Et je crois que vous avez raison de le dire, c'est pas que l'argent. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce lien très fort qui existe entre les juifs de la diaspora partout dans le monde. Le Kerayan Assad est présent dans 47 pays dans le monde, et ça va vraiment, bien sûr qu'il y a le financement parce que c'est essentiel, parce que les gens en Israël ont besoin de nous et c'est important, mais ça va vraiment au-delà de ça. Récemment, on a organisé en France, et je crois qu'on avait l'occasion d'en parler sur votre radio, un Kouloulam à Paris avec... où on a réuni plus de 2000 personnes qui sont venues chanter tous ensemble. Donc il n'y avait aucune levée de fonds, il n'y avait pas de d'argent, mais c'était simplement ce lien très fort avec Israël. Et ça, on le sent partout, on le sent tout le temps. J'étais il y a 3 semaines pour Yom HaAtzmaout à Tel Aviv pour le jour de l'indépendance, pour le Kerayan Assad, parce qu'on avait organisé la conférence des présidents mondiaux du Kerayan Assad, donc des 47 pays. Et cette, cette vibration dont vous parliez tout à l'heure, elle se sent partout. Et la mission du Pyrénées-Essonne dans ce lien entre Israël et la diaspora est essentielle.
Les besoins aujourd'hui en Israël, alors on parlait des besoins sociaux hein, à travers des programmes en direction des plus jeunes, Massa, Paymot, l'avenir des jeunes, aussi vers les personnes plus âgées hein, et évidemment l'intégration des personnes qui ont fait leur alia. Aujourd'hui, ces besoins restent grand, ce sont des choses qui sont en place, mais qui doivent continuer à se développer, et évidemment avec des nouveaux arrivants, toujours.
Absolument, et il suffit d'aller en Israël pour s'en rendre compte, quoi. La fracture sociale en Israël, elle n'est pas fermée, et elle est même, j'allais dire, presque particulièrement vivante. Alors, tout le monde sait maintenant, le coût de la vie en Israël est extrêmement élevé. Il y a une petite minorité qui s'en sort très très bien, et tant mieux, hein, et c'est sous ces gens de la technologie en particulier, oui. Mais il y a un vrai problème de fond sur ce que vous évoquiez, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que les programmes d'éducation, que ce soit bien sûr aussi, parce que le Pyrénées-Essonne intervient aussi dans des périodes particulièrement agitées comme aujourd'hui avec les missiles, avec les bombes, on a financé des abris.
Oui.
Donc il y a le quotidien d'Israël, il y a les difficultés ponctuelles, malheureusement pas si ponctuelles que ça, mais en tout cas récurrentes, liées aux problématiques de sécurité. Et ça c'est tout le temps, c'est tout le temps, et c'est important, et c'est pour ça que le Pyrénées-Essonne globalement dans le monde redistribue près de 160 millions d'euros chaque année. Et je peux vous dire que ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas. On aurait besoin de plus que ça.
Et c'est pour ça que vous faites aujourd'hui cette levée de fonds. Alors on va arriver dans quelques instants à la méthode effectivement pour donner maintenant et avoir des avantages fiscaux également. Moi j'aimerais juste parler d'une chose, parce qu'on parle souvent effectivement des programmes en direction de la jeunesse. Alors Israël, on le sait, hein, c'est une nation jeune, très jeune. Mais je suppose que vous rencontrez les mêmes problématiques qu'ici en Europe, la problématique du vieillissement de la population. De quelle façon justement Israël s'occupe de ces personnes âgées? Nous on a eu fait face à quelques scandales en France. Est-ce que on rencontre les mêmes difficultés en Israël?
Alors je touche du bois et j'espère que ça va durer. J'ai pas entendu en tout cas de mon côté de scandales du type qu'on a pu avoir en France avec les EHPAD et autres.
Hein. Oui.
Mais par contre, les difficultés sont là. On a en particulier au Pyrénées-Essonne, on a un programme qui s'appelle Amigour, destiné aux personnes âgées. Au départ, destiné aux rescapés de la Shoah. C'était des gens qui arrivaient, et vous imaginez des gens qui sortaient de la Shoah et qui se retrouvaient démunis, sans un sou, âgés. Et donc ce programme au départ était destiné à ces personnes-là. Aujourd'hui, le temps passe, il y en a de moins en moins, des rescapés de la Shoah. Et du coup, ce programme s'est transformé pour une aide plus large aux personnes âgées sous la forme de résidences dans lesquelles ces personnes âgées peuvent venir s'installer, dormir, manger, vivre et bénéficier d'un environnement qui soit en termes de santé, en termes social, évidemment beaucoup plus fort que ce qu'ils pourraient avoir tout seuls. Donc on a ce programme et franchement, les besoins, alors c'est pas l'objectif de l'IFI, on va en parler, mais c'est un programme qui est très important pour nous, parce que moi j'ai visité un de ces centres il n'y a pas très longtemps, et ça fait chaud au cœur, j'allais dire, de voir ces personnes âgées dont on s'occupe, qui sont là, qui sont bien, dont on s'occupe bien, et c'est magnifique de savoir qu'ils sont là alors qu'elles n'auraient absolument pas les moyens de rentrer dans des maisons médicalisées type EHPAD ou autres en Israël.
On va parler effectivement, vous le disiez, de cette campagne de l'IFI 2023, l'impôt sur la fortune immobilière. En quoi ça consiste? Expliquez-nous.
Alors, Bon, l'IFI, donc je pense que c'est, ça va. Les gens qui le payent savent ce que c'est.
J'imagine, donc, j'imagine.
J'imagine, c'est ça, cet impôt qui touche les gens donc, qui ont plus d'un certain montant immobilier et qui doivent verser cet impôt. Eh bien, l'État, en fait, a fait un effort important sur l'IFI en termes de déductions fiscales, de manière à favoriser, ou en tout cas à exploiter l'IFI au mieux, pour aider des œuvres caritatives comme, en l'occurrence, le Keren Hayesod. C'est-à-dire que l'État a mis en place un système qui fait que chaque don de 100 euros qui est donné au titre de l'IFI peut être déductible de son impôt à hauteur de 75 euros. Donc c'est 75% de ce qui est donné n'a plus à être versé à l'IFI. Donc en fait, un don de 100 euros coûte 25 euros, pour être clair. Et ce système qui est particulièrement incitatif, eh bien évidemment, le Keren Hayesod essaie de capitaliser là-dessus. Et on a mis en place cette année, on a décidé de se focusser sur trois programmes où l'urgence, l'importance est particulièrement forte. Et les gens qui vont faire un don à l'IFI, le don de l'IFI pour le Keren Hayesod, pourront même choisir lequel de ces trois programmes ils ont envie de soutenir. Donc c'est pas un don à l'aveugle, on est très très orienté là-dessus au Keren Hayesod. On a très envie que les gens aient vraiment conscience de l'impact qu'ils ont quand ils donnent de l'argent au Keren Hayesod, et quelle que soit la somme qu'ils vont donner. Et du coup, on leur propose de choisir parmi trois programmes qu'on a identifiés cette année comme clés pour cette campagne de l'IFI.
Lesquels ? Dites-nous.
Alors, on a un premier programme qui est lié à l'Ukraine. Donc, on a recueilli près de 22 000 Ukrainiens en Israël l'année dernière. 22 000. La Alia française, pour vous donner une idée, c'est entre 4 et 5 000 personnes par an.
Ah oui, donc c'est énorme.
C'est énorme, quoi. C'est énorme.
Des gens qui sont arrivés qui ont besoin de tout, qui ont des besoins énormes.
Ah, qui ont rien. Okay. Vraiment, qui ont rien. Qui sont partis de chez eux, ben vous imaginez comment on quitte un pays en guerre, quoi. Donc, qui ont rien, il faut les intégrer, et il faut les intégrer sur le moyen terme. Il ne faut pas juste les intégrer en leur donnant à manger maintenant. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre la langue, il faut leur donner en fait les moyens de pouvoir travailler. Ce qui peut d'ailleurs être une richesse pour Israël. C'est formidable en soi. Mais pour que ça devienne vraiment formidable, il faut mettre les moyens. Et on sait qu'en gros, l'intégration d'un nouvel immigrant ukrainien coûte 12 000 euros par an. Donc 1 000 euros par mois. On a vite fait le calcul. Hein,
oui, bien
22
sûr.
000 l'année dernière. Et c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Il continue à arriver en masse. On le sait, la situation s'améliore pas là-bas. Donc ça, c'est le premier projet pour lequel nous proposons aux donateurs en France, et partout dans le monde d'ailleurs, hein, mais en France en tout cas, de lorsqu'ils vont faire un don à l'IFI au Keren Hayesod, de dire, en fait, je voudrais que mon don IFI aille pour l'Ukraine en particulier, pour financer, pour aider à l'intégration de ces immigrants ukrainiens. Le deuxième programme qu'on a, c'est un programme auprès des jeunes. Alors, c'est un programme que beaucoup de gens connaissent déjà, c'est Massa. Massa, c'est un système qui permet à des jeunes âgés de 18 à 30 ans d'aller vivre en Israël entre 6 mois et 1 an. Et ça, on parlait tout à l'heure et vous me posiez la question de la relation entre Israël et la diaspora. Massa est évidemment un vecteur formidable de cette relation et de cet attachement qu'on arrive à créer chez nos jeunes, parce que c'est ça la clé. Hein.
Oui.
La clé, ce sont nos jeunes, grâce à Dieu, ils n'ont pas vécu la Shoah. Ils n'ont pas vécu beaucoup de choses que des personnes plus âgées ont vécu. Donc, qu'est-ce qui fait, comment on crée cet attachement à Israël? Comment on fait en sorte que chez tous les jeunes juifs du monde entier, il y ait cette conscience de l'importance d'Israël? Eh bien, Massa y participe très fortement. C'est près de 12 000 jeunes qui partent chaque année dans le monde grâce à Massa, dont 650 ou 700 Français qui viennent de chez nous. Et les résultats sont formidables. Il y a plus de la moitié des participants qui veulent s'engager de manière active dans leur communauté quand ils reviennent. 70% se disent bah, pourquoi pas peut-être un jour la Alia. Et là-bas, ils vont voir le vrai Israël. Quoi. C'est pas juste Jérusalem et le mur de lamentation. C'est le vrai Israël. Ils vont passer du temps dans des startups. Ils peuvent aller dans des centres de l'armée. Donc vraiment, Israël comme ça l'est dans la vraie vie. Quoi. Et ce programme-là, il faut savoir qu'un étudiant, une bourse Massa, parce que c'est le principe, c'est évidemment que ce ne soit pas réservé aux gens qui peuvent se le permettre, mais que ce soit ouvert à tous. Et donc, il y a les dons qui sont faits au Keren Hayesod pour Massa, eh bien, sont là pour financer le coût d'environ 5000 euros que constitue une bourse Massa aujourd'hui pour envoyer ces jeunes pendant 6 mois, 1 an en Israël. Donc ça, c'est le deuxième programme. Et le troisième programme, c'est TEN Éthiopie. C'est un peu atypique par rapport à ce que le Keren Hayesod a l'habitude de faire. Moi, je trouve que c'est un programme formidable parce que en fait, l'objectif de TEN, c'est de développer des projets éducatifs innovants en Afrique, au Mexique, dans des pays, ce qu'on appelait les pays en voie de développement à l'époque, auprès de populations défavorisées pour leur permettre d'acquérir toutes les compétences, donc c'est éducatif, hein, oui, qui leur permettront de mieux s'intégrer au monde de demain. Et en fait, le lien là, c'est que on mobilise des centaines et des centaines de volontaires qui sont des jeunes juifs d'Israël et de la diaspora, qui s'engagent pour 3 à 6 mois pour aller s'occuper de ces petits-enfants en Éthiopie, au Mexique, etc.
Des missions humanitaires.
Exactement. Et ça, moi je disais que je l'aime beaucoup ce programme parce que je trouve qu'en termes d'image d'Israël à l'étranger, c'est quand même formidable, quoi.
Bien sûr, et ben voilà. bien évidemment.
Et on a besoin de ça en ce moment.
Et oui, et de cette image aussi d'Israël, mais bien évidemment. Comment donner maintenant si un auditeur nous entend et qu'il veut faire un don? Comment est-ce que ça se passe?
Bon, alors c'est vraiment tout simple, il faut simplement aller sur le site du Keren Hayesod. Donc Keren Hayesod, ça s'écrit K-E-R-E-N Hayesod, H-A-Y-E-2-S-O-D, Keren Hayesod, et là-dessus, immédiatement, don, IFI, on choisit le programme, un des trois programmes dont je viens de parler, le programme aider les immigrants ukrainiens, aider les jeunes qui vont partir pour Massa, et ou aider TEN, et tout se fait en ligne avec un CERFA qui arrive très vite. On a vraiment fait de gros progrès là-dessus, et on essaie de faciliter au mieux, et je crois qu'aujourd'hui ça l'est, le fait de pouvoir donner sur cette IFI au Keren Hayesod.
Oui, il est très très intuitif, et votre site, il est bien fait, alors félicitations, et puis merci. Dan Serfati, pour la transparence de vos réponses quant à où va l'argent, parce que ça reste toujours très important. Merci à vous, bonne et longue route à votre campagne, qui évidemment, on l'entend, représente énormément, non pas en termes d'argent, mais en termes d'espoir et de projets concrets en Israël et même ailleurs maintenant. Donc je rappelle, vous êtes coprésident du Keren Hayesod France, et merci pour votre engagement également et pour vos réponses aujourd'hui au moment où on en parle.
Merci à vous. Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler du Keren Hayesod et c'est vraiment très très apprécié. Merci et passez tous une bonne journée.
L'invité de la rédaction.